Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
La quatrième manche de la saison, le débrief du Grand Prix de Miami. Vous avez l'habitude, le paddock RMC vous débrief toutes les courses de cette saison de Formule 1. C'est un week-end où un gamin de 19 ans est définitivement en train de retourner la hiérarchie. Kimi Antonelli s'est encore imposé, troisième victoire d'affilée, et il s'installe comme un très sérieux prétendant au titre. On va revenir sur tous les temps forts de ce Grand Prix. Les ingénieurs du paddock qui sont avec nous ce lundi. Jean-Luc Roy from Miami. Salut mon Jean-Luc.
Hello my Nico, welcome aboard.
Jean-Luc qui a suivi ce Grand Prix en voisin, les regards sur les radars météo, alors que toi tu prenais de la flotte dans tous les sens, bah, il n'a pas plu pendant la course.
Eh bah non, écoute, ça tombait partout, tout autour, mais pas sur le circuit, c'est incroyable.
Ça c'est quand même fou. Les ingénieurs à tes côtés, Louis Gerbier et Séraphin Bette, salut les copains.
Hello tout le monde, salut les gars.
Hello Young Guns.
On va se plonger dans ce Grand Prix. Il s'est passé pas mal de choses. C'était un Grand Prix chouette à suivre. Et globalement, le week-end était intéressant. Puisque derrière Antonelli, on a un George Russell qui est peut-être en train d'exploser. On a une écurie McLaren qui est dans le game. Ça y est, hein, avec un podium et un doublé lors de la course sprint. On va parler un peu stratégie aussi. Hein, parce que ça fait jaser du côté de McLaren. Il y a une raison d'espérer du côté de Max Verstappen, et puis il y a des Français, Charles Leclerc, qui se sont sabordés. Ça fait pas mal de points à débriefer tout ça. C'est parti les amis pour ce débrief du Grand Prix de Miami. Je vous rappelle que vous avez toutes les déclarations, tous les extraits du paddock qui sont disponibles sur notre chaîne Instagram, hein, paddock RMC. Si vous voulez voir qui a eu bon lors des pronos pour le dernier Grand Prix, bah vous allez sur la page Instagram. Je crois que personne n'a eu le podium.
Je l'ai sous les yeux. Non, personne a trouvé. En tout cas, personne n'avait mis Kimi Antonelli vainqueur. Donc, il y avait George Russell.
Exactement.
Mais
c'est vrai. Ouais. Et bah allons-y sur Kimi Antonelli qui est le patron de ce début de saison, hein. Au bout de 4 courses on peut le dire, le phénomène est confirmé, c'est assez fou de dire ça, 3ème victoire consécutive et surtout 3ème pole aussi qu'il convertit en victoire. Le début de saison est monstrueux. Jean-Luc, il est surprenant dans sa façon d'évoluer, Kimi Antonelli, même dans ses déclarations, dans sa façon d'être en conférence de presse, on sent que c'est pas le même pilote qu'en tout début de saison. Alors que, enfin, on a l'impression que tout a changé en 3 mois. Quoi.
Absolument, mon Nico. Écoute, tu sais, j'aime bien cette remarque et cette expression, donc je vais vous la servir à nouveau. C'est l'attitude des autres par rapport à lui. Et là, j'ai bien observé comment il le considérait, notamment les deux qui l'encadraient, hein, les deux Papaya, les deux hommes de chez McLaren, et même tous ceux qui sont passés le féliciter juste en descendant de la monoplace, tu sais, au moment où ils vont se peser, etc. Ils n'ont plus le même regard. Ça y est, on a compris qu'on avait affaire vraiment à un cador. Bon, il y a de quoi, hein. À 19 ans, tu le rappelais, c'est ça qui est incroyable. À 19 ans seulement, je dirais, eh bien, il vient de réaliser un exploit que personne avant lui, je pèse mes mots, n'avait réalisé. C'est-à-dire 3 pôles consécutives, après sa première évidemment, donc la première et puis 2 derrière, et 3 victoires consécutives, ça n'était jamais arrivé. Donc ça veut dire que c'est plus du hasard. Bon, les Mercedes étaient dominatrices, on l'a tous pensé, on l'a même tous dit. Et c'était normal pour les 3 premiers Grands Prix de la saison, elles avaient pris beaucoup d'avance. Là, on a bien vu qu'on avait énormément travaillé au sein des autres équipes, et notamment au sein de McLaren, mais même Ferrari et Red Bull sont revenus dans le coup. Et là, il s'est imposé à l'issue d'un Grand Prix, on va dire, mouvementé, pas chaotique comme on aurait pu l'espérer. Personnellement, j'espérais la pluie, bien évidemment, qui n'est pas arrivée, parce que ça brouille les cartes et ça révèle là aussi les personnalités de chacun. Mais bon, il a fait un boulot absolument remarquable. C'est l'homme fort de ce début de saison. Alors, on dit toujours à confirmer, mais enfin là, je crois qu'il a confirmé. Ça n'est plus un espoir. Avec 100 points de surcroît et 20 points d'avance sur son propre équipier, je pense que le pauvre Russell, là, il a pris un énorme coup sur le casque.
Ouais, on va l'écouter, tiens, Kimi Antonelli au micro du diffuseur Canal+, et bien évidemment, on va revenir après sur George Russell.
It was a tough race, it was very intense.
C'était une course difficile, vraiment intense.
was very nerve-wracking. I was counting the laps because at some point.
C'était très compliqué pour les nerfs. Je comptais les tours à un moment, ça m'a paru vraiment long. Il faut aussi que je remercie Verstappen parce qu'il a compliqué la vie de Norris. Et ça m'a permis de respirer. Donc merci à lui, mais ouais, super course et je suis vraiment très heureux. C'est vrai, Louis, que bah, Antonelli. Il est en train vraiment de se forger là une saison de champion. Enfin, on sent que même dans le car, dans le caractère qu'il est en train de dégager, dans le caractère sur la piste, je parle, parce que cette course-là, il est allé la chercher. Lui, vraiment, en résistant à beaucoup de pilotes, il y avait de la pression, c'est ce qu'il dit là dans sa petite interview à Canal+. Et il est capable maintenant de gérer ça, quoi. À seulement 19 ans, c'est fort quand même.
Ouais, tout à l'heure j'ai rigolé parce que tu dis c'est le patron et il a 19 ans. Et là tu te dis, ah ouais, quand même, pas mal. Mais il y a un peu de ça. Il est très très solide. Moi je suis assez impressionné par, disons, l'évolution. C'est plus qu'un palier là, mais il a fait un saut important en très peu de temps. Puisqu'avant il était plutôt dans une continuité, il progressait tranquillement, on va dire un peu dans l'ombre de George Russell. Et là, d'un coup, la pole l'a peut-être un peu débloqué. Et là, maintenant, il s'exprime pleinement. Il a l'air d'être bien avec la voiture et la réglementation. Et il fait un peu ce qu'il veut avec cette voiture. Parce que même quand le samedi, ça se passe moins bien, ou le départ, bah, il réattaque, il remonte, et puis il finit devant. Donc, je trouve que c'est assez impressionnant ce qu'il démontre. Et Jean-Luc l'a dit aussi, le regard que les gens ont sur lui, enfin les gens, les pilotes, les teams principaux, tout ça, montre aussi que oui, c'est pas un accident et on n'a pas fini d'en débriefer des victoires d'Antonelli, je pense, dans cette longue vie de ce magnifique podcast, les amis. Mais surtout là, aujourd'hui, c'est que ça devient un concurrent plus que crédible et déjà plus qu'un concurrent, ça devient... peut-être pas encore le favori, mais George Russell, il faut que ça aille vite, différemment pour lui, sinon ça va être très compliqué.
Ouais, mais je vais vous donner quand même le classement de la course, parce que je ne l'ai pas encore fait. Mes victoires de Kimi Antonelli devant Lando Norris et Oscar Piastri. Quatrième seulement, George Russell, son coéquipier. Max Verstappen, cinquième. Lewis Hamilton, sixième, qui prend 8 points. Franco Colapinto signe sa meilleure perf avec Alpine en prenant les 6 points de la 7e place. Charles Leclerc, on va en parler de Charles Leclerc. Hein. Il a tout gâché dans le dernier tour, alors qu'il a fait un week-end solide. Leclerc, seulement 8e. Carlos Sainz, 9e. Avec son coéquipier Alex Albon à la 10e position, Esteban Ocon 13e, et donc on en reparlera plus tard, mais Pierre Gasly et Isaac Hadjar n'ont pas terminé la course. Je vais juste vous donner la course sprint, la sprint race quand même, avec le doublé des McLaren, hein, Norris Piastri devant Leclerc, Russell, Verstappen, Antonelli, Hamilton et Pierre Gasly. Voilà le top 8 de la course sprint au championnat du monde. 20 points d'avance pour Kimi Antonelli, les amis, hein, sur George Russell. Désormais, il y a un écart qui se crée. Charles Leclerc est 3e avec 59 points. Et puis au classement des constructeurs, Mercedes est devant avec 70 points d'avance sur Ferrari. L'enseignement au classement des constructeurs, c'est que Red Bull, grâce aux points de Verstappen, se détache un petit peu à la 4e position. Et McLaren recolle aussi un peu sur la Scuderia Ferrari. Voilà, en gros, les temps forts de ce week-end. Revenons à ce qu'on disait, Séraphin. On est obligé de faire le parallèle entre Antonelli et George Russell. Les dynamiques sont complètement en train de s'inverser. On mettait tous George Russell comme notre favori avant le début de la saison, parce qu'il a l'expérience, parce que c'est un bon pilote, parce qu'on pensait que c'était son année. Il a bien démarré la saison à Melbourne, et depuis, bah, les trajectoires de ces deux pilotes sont complètement en train de se croiser.
Ouais, et vous avez tout dit sur Andrea Kimi Antonelli, mais je suis d'accord que là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est ce week-end, comment il a dominé George Russell. Quand on voit quand même la qualification pour la course, il y a quasiment 4 dixièmes d'avance, hein. Il était premier, Antonelli, on rappelle, George Russell partait 5e, donc c'est quand même beaucoup, hein, pour entre deux coéquipiers. Et c'est vrai que voilà, Antonelli, il fait tout ce qu'il faut dans le bon. On rappelle aussi que la course, il y a eu une très bonne stratégie. On s'est arrêté au bon moment, et c'est aussi une course qui, On a eu des situations, on rappelle au précédent Grand Prix, où voilà, on a peut-être aussi imputé la safety car. Là, pas du tout. La course, il a géré de main de maître. On a encore des difficultés. C'est le point négatif peut-être de ces Mercedes qui sont les départs. Mais franchement, le week-end qu'il fait par rapport à son coéquipier, il fait mal pour George Russell. Et donc, c'est là où on ne peut effectivement que comparer entre deux pilotes le coéquipier. Et on l'a dit, mais avec un coéquipier comme George Russell, on ne s'attendait pas à que Kimi Antonelli puisse autant dominer, peut-être là quand même une troisième fois consécutivement. C'est fort. Et vous l'avez dit, ouais, je pense que là, George Russell, ça doit commencer quand même à être inquiétant pour lui, parce que voilà, de voir le. Alors que George Russell a, je crois, cette saison en Formule 1, et qu'enfin, il a la voiture qui lui permet d'atteindre son objectif et de réussir avec une écurie, et ben voilà, que le petit jeune, on l'a dit, que 19 ans quand même, deuxième saison, il est en train de le battre. Donc,
ouais, puis là, ce qui est inquiétant, les gars, c'est que Antonelli, là, sur la piste, on l'a vu faire des manœuvres face à Charles Leclerc, résister à Verstappen, résister au champion du monde en titre, Lando Norris, Jean-Luc. Et Russell, il est loin de ces batailles-là. Alors, loin, je suis un peu dur, mais tu le disais, cette course, elle peut vraiment laisser des traces chez Russell.
Absolument, ben elle en a laissé, moi je peux te le dire, parce que là, il ne doit pas comprendre ce qui lui arrive, hein. On reviendra à cette attitude et cette incompréhension dans d'autres situations bientôt, dans le cours de ce paddock, malheureusement. Mais je pense que là, il ne comprend pas ce qui se passe. Là. Il se dit, bon, ok, on savait qu'il était rapide, mais il était encore très jeune, il commettait pas mal d'erreurs, et puis là, tu viens de le rappeler, ben, il a dû se frotter, les circonstances de course ont fait, effectivement, toujours un peu, il a énormément travaillé ses départs, et on a vu quand même le résultat. Était là, il n'est pas mal parti, il n'est pas très bien parti, enfin d'autres sont mieux partis que lui comme d'habitude, notamment évidemment Ferrari avec Charles Leclerc, et puis ensuite il y a eu cette incroyable tête à queue de Verstappen au milieu du paquet. Alors moi je salue la maîtrise, hein. Il y avait un débat également sur d'autres antennes, j'ai vu entre des pilotes, Juan Pablo Montoya notamment, qui n'était pas tout à fait d'accord avec Palmer, sur Palmer disait c'est du talent, Montoya disait non c'est de la chance. Ben moi je suis de l'avis de Palmer, c'est du talent. Alors après, il faut toujours un peu de chance, évidemment, mais récupérer une monoplace comme ça, chargée, ras la gueule, permettez-moi l'expression, de carburant, ce sont déjà des camions avec des batteries et tout. Alors, bien sûr qu'il faut un peu de chance, surtout de ne pas être percuté par les autres, hein, parce qu'à cet endroit-là, il avait toutes les chances d'en ramasser un autre. Bon, tout le monde a bien réagi. Ensuite, il se retrouve 10e. Et instantanément, malgré probablement la dégradation qu'a subie sa monoplace, hein, sur le fond plat, c'est peu de le dire, et puis peut-être les pneus quand même, il y a un petit plat sûrement, il devait conduire un marteau-piqueur, bah, il remonte immédiatement dans le classement. Alors je vais me répéter, c'est le meilleur, alors peut-être pas pour longtemps, vu ce qu'il est en train de nous faire Antonelli, mais c'est le meilleur, et donc bah, écoute, il sauve un truc absolument extraordinaire. On en revient à Antonelli, puisque c'est sur lui que tu m'as posé la question, bah, je crois qu'il s'est frotté à tout le monde, hein. Il a dû résister au retour de Norris, qui est quand même le champion du monde en titre, il faut quand même le rappeler, avec une McLaren qui a considérablement progressé. Je ne suis pas totalement certain que intrinsèquement la Mercedes reste la meilleure monoplace du plateau, après les améliorations qui ont été apportées aux autres, hein. Je pense que les McLaren sont au moins au niveau, voir si elles ne sont pas un peu devant, parce que le tir groupé le confirme. Les Ferrari, bah, pas trop loin derrière, et puis la Red Bull est dans le coup également, on a vu ce qu'en fait. Donc non, c'est un exploit personnel d'Antonelli.
Alors je crois que Mercedes va avoir des évolutions, hein, au Canada, là à Montréal.
Oui, il me semble qu'il
y a un pack qui arrive. Tiens, on va écouter George Russell au micro de Canal+. Vous allez voir, c'est assez succinct. Il y a une question du journaliste de Canal, Laurent Dupin. Réponse courte de George Russell.
Damage limitation, you would say?
Vous pensez que vous avez limité les dégâts ce week-end? Oui, je pense. C'était une course et un week-end super compliqué. Je l'ai déjà dit. C'est un circuit que je n'aime pas. Il ne correspond pas à mon style de pilotage. Donc j'ai hâte de voir à Montréal ce que ça peut donner. Voilà, c'est un circuit que j'aime pas. Ok, d'accord, mais bon.
En espérant qu'il aime Montréal, hein, parce que sinon.
Ouais. Ah, il a gagné à Montréal l'année dernière.
Ouais.
Ouais. Donc, non, mais on est inquiet là pour Russell, les gars, ou Séraphin, Louis, ou...
Bah, il a voilà, la pression.
C'est que la quatrième course de la saison après.
Oui, hein, oui, mais non, bon. Mais évidemment. Et rappelez-vous, l'année dernière, À cette époque-là, Norris était au fond du seau. McLaren se réveillait seulement et Norris n'allait pas bien. Donc, évidemment. Mais surtout sur le côté pression, bon, Mercedes, c'est quand même un constructeur qui est là pour gagner. Ils ont beaucoup gagné. Ils sortent de plusieurs années où ils n'avaient pas la voiture pour le faire. Et là, ça, c'est la première fois qu'ils ont de nouveau une voiture qui peut gagner. Et George Russell, lui, il est le pilote expérimenté. Et donc, lui, il a toute la pression parce que lui, il ne peut pas se rater. Lui, s'il n'est pas champion du monde cette année, c'est un échec. Antonelli, bah, si c'est Russell qui l'est et pas lui, on dira, bah ouais, mais bon, il y a une certaine continuité, enfin, il y a une certaine logique. Si c'est peut-être une McLaren ou quoi, bah, on n'en parlera même pas d'Antonelli. Mais là, Russell, avec, on va dire, les planètes qui s'alignent pour lui, c'est sa saison peut-être ou jamais. Et donc, c'est peut-être aussi une pression compliquée à gérer pour lui, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est clair que plus ça va avancer comme ça, de toute façon, la pression sera beaucoup plus lourde sur les épaules de George Russell qu'Antonelli, qui, de par son jeune âge, peut se permettre, entre guillemets, de se rater, puisqu'il n'aura que, que 19 ans et demi, et donc il aura toujours le temps d'être champion du monde par la suite.
Ouais. Oui, c'est clair. Là, il ne faut pas se rater à Montréal pour Russell. C'est clair que la pression, les attentes aussi sont de plus en plus fortes. Tiens, bifurquons sur McLaren, parce que McLaren revient très fort. Ça a énormément bossé pendant la trêve, là. Séraphin, ce n'est pas parfait, notamment stratégiquement, parce qu'il y a eu un undercut de Mercedes qui leur a permis de résister au retour de Norris derrière. Mais malgré tout, Norris deuxième, Piastri troisième, doublé en course sprint. Il y a des gros progrès entrevus grâce aux évolutions. C'est la plus grosse progression là, dans le paddock. Hein. Sur cette trêve, on attendait de voir vraiment qui allait optimiser ce mois de coupure là pour avoir une voiture qui puisse titiller Mercedes. McLaren, ils ont fait un vrai step. Hein.
Ils ont fait un énorme step. Hein. C'est eux qui ont amené, il me semble, plus d'évolution d'ailleurs ce week-end. Et il y en aura encore. Mais on sait que c'est aussi une écurie qui a toujours, quand elle amène des évolutions, elle sait les faire fonctionner. En tout cas, la corrélation entre le développement et la réalité de la piste est toujours bon. Et ce week-end, tu l'as dit aussi, je rajoute quand même la qualification en course sprint avec du coup la pole de Lando Norris aussi, qui était quand même aussi significatif. Et donc, bien sûr que McLaren, c'était une très bonne surprise. Bah, Norris était en tête hein, une bonne partie avant de se faire après undercutter justement par Mercedes. Mais le rythme était là et aussi Oscar Piastri qui lui aussi partait un petit peu derrière mais qui a su remonter et on l'a vu bien aussi se batailler. Donc c'est extrêmement encourageant pour la suite. Je pense que quand même aussi on rappelle mais ils ont du coup le moteur Mercedes et on sait qu'on a compris aussi maintenant vraiment comment exploiter ce moteur. C'était des choses sur lesquelles on devait progresser. On a eu beaucoup de problèmes de fiabilité sur la partie électrique. On se souvient des trois premiers Grands Prix. Donc là, ça y est, on a une bonne... En tout cas, ce week-end, on n'a pas eu de problème. Et non, l'évolution, elle est énorme. Et je rejoins Jean-Luc. Je pense aussi qu'à rythme de course, McLaren était très, très proche, voire meilleur que celui de Mercedes. Il va falloir voir sur un circuit où on va peut-être plus utiliser vraiment le moteur, je pense au Canada... Mais encore une fois, sur le papier, ils sont censés avoir le même. Hein, mais on sait que Mercedes va quand même toujours avoir un petit avantage. Mais le rythme était très surprenant. Et globalement, ça donne du positif, je trouve, pour la suite. Où on a peut-être peur d'avoir une ultra-domination de Mercedes pendant une grosse partie de la saison. Et en fait, finalement, non, on voit qu'on peut venir chercher une pole position. On peut venir se batailler vraiment avec une Mercedes. Et je crois que Norris termine à 3 secondes, il me semble, de
oui, c'est ça. Et donc, il a laissé filer hein, sur la fin. Mais
exactement. Donc c'est très, très proche, hein, 3 secondes. Ouais.
Ce qui est fort, c'est de se dire qu'Oscar Piastri, il n'avait pas pris le départ des deux premières courses quand même, Oscar Piastri. Il se retrouve avec 43 points. Lando Norris, 51 points. Depuis Suzuka, ils prennent de très gros points. Et la dynamique, elle est clairement pour McLaren. Tiens, on écoute Lando Norris sur les progrès de son écurie.
We certainly improved a massive amount. I think this is clear.
On a énormément progressé, ça c'est sûr.
Still surprised by. I feel like
pouvoir se battre avec Mercedes aujourd'hui, ça me surprend. Well. encore. Je pense qu'on a fait une très bonne course. On a fait un très bon week-end globalement. Ça fait un peu mal car on aurait dû gagner ce soir. Franchement, on aurait dû. On aurait dû avoir un peu plus de chance. On n'aurait pas dû laisser Antonelli nous dépasser dans les stands. Mais si on regarde le positif, on a deux voitures sur le podium et on était tous les deux très rapides, plus rapides que les Ferrari. Si on compare avec le début de saison, on doit être fiers, heureux, on a bossé. Et il en faut encore plus, mais il faut qu'on fasse un pas à la fois. On est très contents. Je ne suis pas certain qu'on soit encore à notre maximum aujourd'hui. Il y a une marge de progression. Voilà, Lando Norris. Ultra optimiste, hein, Jean-Luc Lando Norris, oui. Sur les perfs de McLaren.
Il a toutes les raisons de l'être. Hein. C'est lui qui a signé le meilleur temps en course, c'est quand même toujours important de le rappeler. Et le deuxième meilleur temps, c'est Oscar Piastri. Donc ça confirme ce que nous vous disions à l'instant avec Séraphin en parlant de la performance globale des McLaren. Alors, puisque si on compare justement avec la Mercedes, bah, Kimi Antonelli n'est pas très loin, mais Russell, lui, marque un petit peu le pas, tant en course, encore une fois, donc il avait quand même le temps, hein, il avait 57 tours. Ça veut dire que globalement, je pense que les McLaren sont vraiment les meilleurs monoplaces. Alors, je sais, c'est l'habitude de Norris, il va nous dire que ce n'est pas vrai, mais moi, je vous dis que c'est vrai. Donc, parce que les pilotes ont toujours tendance à nier le fait qu'ils aient entre les mains la meilleure monoplace. Je trouve ça stupide, bien parce sûr. Qu'évidemment, c'est comme si on hypothéquer un petit peu ou qu'on limitait leur qualité, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, non, mais beau tir groupé, on va voir évidemment si ça se confirme. En plus, McLaren nous dit qu'ils ont encore des évolutions à apporter avant le Canada. Bon, ce sera, tu l'as rappelé mon Nico également, ce sera le cas de Mercedes et puis de tous, hein, parce que c'est évident que le travail considérable qui a été fait pendant ces 5 semaines va porter ses fruits et c'était pas d'un coup, on pouvait pas tout apporter à Miami. Et puis, le circuit est différent, on le connaît, le circuit de l'île Notre-Dame, hein, avec ses longues lignes droites où il faut combiner à la fois une vitesse de pointe très importante, une excellente stabilité au freinage, de la motricité pour en sortir, bref, des qualités un peu antinomiques. Donc on va voir si les monoplaces sont complètes dans ces circonstances-là.
Oui, totalement. Donc, belle perf des McLaren. Je voulais aussi quand même qu'on parle de Max Verstappen parce que, alors lui aussi, elle lui a fait du bien cette trêve mentalement. Bon, il disait qu'il aurait bien aimé qu'elle dure un peu plus longtemps parce qu'il était à la maison, il a pu rouler, il a fait de l'endurance, il s'est régalé. Mais Louis, on a retrouvé un Verstappen avec une voiture qui lui a permis de faire du Verstappen, aller chercher la deuxième place sur la grille, être combatif en course. Voilà, il termine cinquième, c'est sa meilleure perf de la saison et on l'a senti plus en phase avec sa machine.
Oui, il y a tous les niveaux, ça s'est vu dans son week-end et sur la piste, clairement. Une voiture qui progresse et malheureusement, quand la voiture devient compétitive, il y a une chose aussi qui fait souvent, c'est mettre son coéquipier très loin derrière. Et ça s'est produit ce week-end, j'espère que c'était juste comme ça et que bon, ça ne va pas être une habitude parce qu'on n'aimerait pas. Mais c'est vrai que là, on a retrouvé du bon Verstappen et je pense que c'est quelque chose qui doit satisfaire aussi beaucoup les instances parce qu'on en parlait dans le warm-up, ils ont besoin de lui. La F1 en ce moment, dans cette zone de turbulence, de début de réglementation compliquée, elle a besoin que ces figures, ces stars soient à fond avec elle, on va dire, entre guillemets. Même si lui, il n'est pas à fond, il s'en fout, mais juste là, il prend du plaisir et la voiture va mieux, quoi, tout simplement. Donc, on va avoir du bon Verstappen. Son 360, la rattraper, bon, on sait qu'il est capable de 1000 choses, mais alors, quand même, il est vénard que personne s'en plafonne dans lui, quoi. Parce qu'il part combien ? Il part 4 ou 5 ?
Il part 7e.
Il part 7, donc ouais, là, à ce moment-là, il est dans le premier wagon, donc ça veut dire que t'as plus de 10 bagnoles derrière toi. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être aussi complètement catastrophique en ce moment. Et à la fin, c'est magnifique, et lui, il repart et il est hyper solide, quoi. Donc,
Pardon, il partait 2e, Verstappen.
Il partait 2e. Il s'est retrouvé 10 hein, après le tête à queue,
ce que je rappelais.
10 après le tête à queue.
Donc, il part... Ouais. Il fait son tête à queue, virage 2-3.
Mm-hmm. Il bloque les roues d'abord.
Il doit la mettre dans le mur. Il la met pas dans le mur. Personne le touche. Il repart et ça ne l'a pas, évidemment, comme d'hab, en fait, ça ne l'a pas perturbé. Refroidi, mais même pas un peu, quoi. Et là, limite, ça l'a mis dedans, peut-être.
Et là, on a été intelligent chez Red Bull, c'est qu'on l'a fait rentrer au stand. On rappelle quand
très,
même.
Très bonne stratégie tout de suite.
Juste après, hein, quand il y a eu la safety car, qui était déployée, c'est le seul qui rentre au stand pour chausser les pneus durs. Mm. Et on sait qu'il va réussir à les amener très très loin, ces pneus durs en fin de course. Il va venir quand même se batailler pour essayer de garder le podium. Et ce qu'il a fait aussi sur le rythme global avec ses pneus en fin de course.
Il y a Bottas qui s'était arrêté, ouais. Mais il a mis des softs, lui. Bon, voilà.
Et puis Bottas, bon,
parce
il a
fait un deuxième relais, les gars.
Qui a terminé à deux
il
tours.
Fait un deuxième relais de plus de 40 tours, hein, Verstappen. Hein. Ah ouais. Donc ouais. Pari, il est énorme, hein, Jean-Luc.
Ah bah, il est colossal. Et comme l'a dit Séraphin, c'était bien joué. En plus, on pensait que la pluie allait arriver. Hein. Je vous rappelle que toutes les prévisions voyaient une vague de pluie autour du 25e tour. On était au 6e. De mémoire, on a remis le drapeau vert au 12e. Donc, ça a duré assez longtemps pour évacuer les deux monoplaces. Donc, c'était très bien joué. Parce que du coup, on allait tranquillement avec des pneus frais et on pouvait remonter. On allait tranquillement, enfin tranquillement façon de parler. C'est jamais tranquille en Formule 1. Mais je veux dire, on pouvait conserver ses pneus jusqu'à monter les pneus pluie, les pneus intermédiaires, et puis voilà, sauf que la pluie n'est jamais arrivée. Et c'est ça qui a perturbé la stratégie, mais la décision, elle était absolument excellente.
Ouais, et franchement, bah ça fait du bien de voir un Max Verstappen à ce niveau-là, pour l'intérêt du championnat, clairement, parce que quand tu vois un Verstappen qui se bagarre avec Norris, qui est capable d'aller chercher les Mercedes, qui chicane avec les Ferrari, quand même, ça donne une autre tournure à cette saison.
Alors, Monico, ouais. Je rajouterai, si tu permets, quelque chose, hein, parce que c'est vrai que je me suis arrêté sur la performance, mais sur l'analyse générale, et il l'avait dit avant, ça n'est pas la performance de la voiture qui le rend optimiste. Les mesurettes, je l'ai dit, la montagne qui a accouché d'une souris, enfin je vous avais dit tout ça avant, c'est exactement ce qui s'est produit. Ouais. Les détails cosmétiques et quasiment ridicules qui ont un peu amélioré la situation. Vous l'avez lu comme moi, tous les pilotes l'ont dit, oui, ça a un tout petit peu amélioré, un peu en qualif, un poil en course, ouais. Mais bon. Ouais, c'est rien du tout. Et Verstappen n'est toujours pas heureux avec ça. Maintenant, il a sûrement réfléchi et puis il a dû en parler avec son père, avec son conseiller, Vermeulen, etc. En disant, est-ce que, bon, maintenant, en gros, j'arrête de cracher dans la soupe et puis je me mets au travail et on voit ce que ça donne avec cet écart dont on va évidemment parler avec son équipier, qui est abyssal, qui est colossal, qui est plus grand que jamais. Donc ça veut dire qu'on a retrouvé le Verstappen avec l'envie de piloter et l'envie de se donner à 150%, comme toujours.
Eh ben, tu sais quoi, c'est parti pour notre petit coup de gueule de Jean-Luc Roy.
Oh yes, ladies and gentlemen,
il faut arrêter la Formule 1 parce que ça ne sert à rien.
Après, il s'est lancé dans une remontée vraiment à couteau ouvert.
Des moteurs de trottinette ou de tondeuse à gazon.
Mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule. Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord?
Bon Jean-Luc, tu voulais revenir bien à quel jingle exceptionnel, ouais. Tu voulais revenir bien évidemment sur le week-end d'Isaac Hadjar. Alors attention, Isaac Hadjar a vécu un week-end très compliqué. On sait que c'est le coéquipier de Max Verstappen, que c'est très difficile d'occuper ce baquet-là. On sait aussi que c'est seulement la quatrième course de la saison, mais là c'est vrai qu'il a souffert de la comparaison avec Verstappen. Parle-nous du week-end d'Isaac, et parce que pour la première fois on l'a vraiment senti en grande difficulté, quoi. Depuis qu'il est arrivé chez Red Bull, ça faisait la maille, on était même plutôt optimiste sur sa capacité à tenir la baraque, quoi, face à Verstappen, et là tout s'est un peu effondré à Miami.
Absolument. Alors je vais commencer évidemment par la précaution d'usage. Hein. Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. On en a dit assez de bien, moi aussi, dès qu'il était rapide et notamment en qualification, où il a toujours été, à mon sens, nettement plus convaincant sur un tour qu'il ne l'est sur une course. Oui, c'est pas mauvais ce qu'il fait, mais c'est moins bon intrinsèquement. Là, malheureusement, c'est dramatique. Il faut peser les mots. J'ai regardé un petit peu les écarts avec les équipiers de Verstappen dans le passé. Pratiquement jamais il y a eu une seconde d'écart. Une seconde deux à la première séance d'essai libre. Alors moi, le premier, je me suis dit, oula, là, bon, il doit y avoir un loup quelque part, il y a un problème qu'on va résoudre. Et puis non, ça s'est confirmé tout au long du week-end, y compris les temps en course. Vous savez qu'une nouvelle fois, Ça, c'est un temps évocateur. Et même, bon, son début de course, évidemment, avorté, mais de sa faute, hein, parce que, ah ben oui, je remontais facilement, a-t-il dit. Bon, il a balayé devant sa porte, hein, il est lucide, il est honnête. Ben oui, évidemment, parce que les autres géraient. Et puis, en général, quand on remonte comme ça, c'est qu'il y a une sanction qui tombe et elle est tombée. Ben oui, il ne faut pas arriver à cette vitesse-là dans cette chicane, sinon on termine dans le mur. Voilà, bon, ben, c'est la sanction, j'allais dire, habituelle dans ce genre de cas. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pas cette erreur-là. Encore une fois, il n'a que 21 ans, c'est sa deuxième saison, etc. Il est rapide, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'écart constant sur l'ensemble du week-end avec Verstappen. Verstappen a enclenché la première, là ça y est, c'est reparti. Et je crains que la machine à détruire les équipiers soit repartie à plein tube. Alors, on va en avoir ou pas la confirmation lors du prochain Grand Prix au Canada. Il y a deux semaines, ça va permettre, je l'espère, à Isaac de se regrouper et de retrouver sa motivation. Le problème, c'est qu'il le disait lui-même, je ne sais pas comment il fait. Ben oui, ben c'est exactement, vous vous reportez aux déclarations de Tsunoda, de Lawson, enfin la liste est tellement longue, c'est exactement ce que les autres disaient. Et j'ai regardé aussi les écarts, il ne leur collait pas une seconde. Hein. Moi j'avais dit, s'il est à moins de 4-5 dixièmes, c'est bien. Oui, mais là c'est absolument incroyable. J'espère qu'il y avait un loup sur la monoplace et qu'ils vont le trouver. J'espère qu'il y avait une raison d'expliquer cet écart, parce que là, c'est colossal. Et moi, je vais vous dire un truc. Hein. Juste avant qu'on débarque Tsunoda, là aussi, j'ai vérifié. Ben, il n'était pas une seconde, Tsunoda. Il était entre 5 et 8 dixièmes d'écart. Voilà, tout est dit.
Après, Hadjar, si Jean-Luc, n'a jamais été à... Enfin, il était à 4 dixièmes, oui, 3 dixièmes sur les deux, trois premiers Grands Prix.
Non, mais moins que ça, même. Moins que ça, il était à 1 ou 2 dixièmes. Mais parce que tout simplement, Max n'y était pas. Et c'est pas lui faire offense non plus. Il était écœuré par la réglementation, écœuré par la voiture qu'il avait entre les mains. Donc bon, bah, il roulait, c'est un professionnel, il roulait, mais il n'y était pas, je vous l'ai dit, là, il a remis la première. Là, je peux vous dire qu'il est reparti, il n'a pas le même regard, il a la même attitude. Donc on va voir, hein. on va confirmer ou infirmer au prochain Grand Prix. Mais le problème, il est là.
Tiens, on écoute Isaac Hadjar au micro de Canal et après je vous fais réagir, les gars.
Fâché parce qu'il y avait du rythme, ça remontait tellement facilement que je jette des points à la poubelle bêtement. Vraiment là je suis très frustré et en plus de ça j'ai fait mal à la voiture donc ça compte aussi. Et tout le week-end j'étais à la limite et j'étais à l'aise avec cette limite et là ça l'a pas fait. J'ai pas été assez précis et j'ai pris trop de risques pour sur une course qui fait 57 tours. C'est normal qu'à un moment donné, ça touche. Donc, j'ai pas été très intelligent.
Il est toujours quand même très lucide et très cash avec lui-même, Isaac Hadjar, ça. Pour le coup, même après une course, il se cache pas. J'ai pas été très intelligent. J'ai été à la limite, je me sentais bien. Mais c'est un peu couillon d'avoir fait ça sur une course de 57 tours, Louis. Tu partages l'inquiétude là, de Jean-Luc sur l'éclat qu'il a pris ce week-end. Moi, je sais pas. Moi, j'ai tendance à me dire que la vérité d'un week-end, qui plus est avec cette réglementation, ça... C'est pas forcément une vérité, quoi. Ce qu'on a vu là ce week-end, ça veut pas dire que ça va se reproduire à Montréal, mais bon.
Bah, il y a deux choses. Optimiste. Ouais, il y a deux choses. C'est que, bah, d'un côté, je suis un peu comme vous, et peut-être aussi par chauvinisme, j'ai pas envie d'y voir quelque chose de. Voilà, j'ai envie d'y voir un épisode. Comme l'a dit Séraphin, en début de saison, ça allait pas trop mal, mais. Le réveil du tigre, là, c'est que Verstappen, il peut faire très mal, donc. Voilà, là on en est à une fois. Pour l'instant, on doit attendre, mais c'est sûr que si dès Montréal c'est ça, ça va être très compliqué si c'est ça de nouveau, quoi, s'il y a une seconde. Parce que Isaac, en plus, il fait partie de ces mecs, bah, ils ont rarement été battus quand même dans leur vie, quoi. Leur course auto pour en arriver là et tout. Donc là, il y a toujours, quand tu es jeune, cet apprentissage dans la cour des grands, un jour de te prendre une déculottée, quoi. Et là, tu comprends pas. Donc, peut-être qu'il est en train de vivre ça. Et il y a deux manières dans cette situation. Il y a ceux qui, un peu, trouvent la solution là-dedans et ceux qui s'écroulent. J'espère qu'il fera partie des premiers. Mais oui, moi, on va tous le regarder attentivement dès Montréal parce que quand quand l'écart est si gros, tu te dis, bah ouais, soit c'est la voiture ou soit ça va déjà plus du tout, quoi. Donc, en espérant que ce soit la voiture.
Non, mais vous savez pourquoi je suis optimiste, moi, les gars ? Parce que Isaac Hadjar, alors on a un échantillon qui est encore assez, assez faible, hein, bien évidemment, parce que c'est le début de sa deuxième saison en Formule 1. Mais mine de rien, l'an passé, et même en F2, à chaque fois qu'il s'est pris un point dans la tronche ou qu'il a pris une claque, il a toujours réussi à rebondir. Il a toujours réussi à quand même à aller chercher la petite perf, le supplément d'âme, les adaptations, en travaillant avec ses ingénieurs. Et c'est pour ça que je me dis que bah, ça va lui servir. Je le vois pas s'effondrer, personnellement. Séraphin, je sais pas toi, mais il a déjà montré qu'il avait une vraie capacité de réaction à Hadjar.
Mais bien sûr, il n'y a rien qu'à voir. Sa réaction, quand on le voit faire cette erreur, il se dit « Mais mince, mais je suis con. » Il tape sur son volant, il avait la caméra juste au-dessus de lui. Donc je suis sûr qu'il a déjà fait son autocritique. Il sait très bien là ce qu'il a fait. Il a dit qu'il a trop poussé, il l'a avoué, il a fait une grosse erreur, à la fois personnelle, mais aussi pour l'équipe, évidemment, on casse la voiture. Et oui, je pense quand même qu'il va savoir rebondir. Je trouve que sur les trois premières courses, il était vraiment l'écart global était assez faible. Et là, c'est vrai que ce week-end, oui, il était vraiment loin. C'est pas quelque chose qu'on doit voir sur les prochains Grands Prix. Après, c'est vrai que je comprends ce que dit Jean-Luc dans l'aspect où Verstappen a peut-être retrouvé un peu de plaisir, de pilotage avec une voiture qui s'est améliorée. Peut-être que ça lui a permis de lui en extraire voilà, quelque chose en plus et de créer un écart. Je suis curieux de voir si sur les prochains Grands Prix c'est le cas. Et puis à voir aussi avec d'autres, peut-être que des évolutions de la voiture étaient légèrement différentes entre les deux voitures. C'est aussi quelque chose. Mais en tout cas, oui, là l'erreur qu'il fait ce week-end, elle est vraiment de sa faute. Donc il le sait et c'est pas quelque chose qu'il doit évidemment reproduire.
Ça, c'est clair. Tiens, pour terminer un peu là sur les Red Bull, Verstappen, il est quand même revenu là sur son départ et tout ça, sur le fait qu'il perd la voiture. Ouais, il est quand même drôle. Il dit si la F1 ça marche pas, je pourrais toujours faire du rallye.
Ah, bien sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé au départ. Il est bon Verstappen. Tiens, restons un peu sur nos Français, parce que pour le coup Hadjar et surtout Pierre Gasly, Gasly espérait prendre des points, ce qu'il a fait sur la course sprint en terminant 8e, et bien lui aussi il n'a pas terminé la course. On l'écoute, Gasly au micro de Canal.
Je suis juste déçu pour toute l'équipe, parce que on sait qu'il y avait des gros points à aller chercher aujourd'hui, et clair que l'incident n'était pas plaisant. Après, je ne vais pas faire plus de commentaires, mais bon, c'est sûr que je suis déçu, très déçu. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé de me retrouver comme ça dans une F1, donc non, c'est sûr que c'était assez impressionnant. Je ne savais pas trop où j'allais finir et quand, donc non, ça n'a pas été plaisant.
Voilà, Pierre Gasly qui a eu un accident spectaculaire. Il a fait un tonneau. On a vu cette caméra embarquée où sa voiture se retourne. Et heureusement, il y a le halo désormais qui protège les pilotes. Jean-Luc, c'est dommage parce que Alpine avait un coup à faire. Hein. On l'a vu avec Colapinto. Il y avait de la performance ce week-end. Ils pouvaient encore une fois mettre les deux voitures dans les points. Ça semblait vraiment dans leur corde. Et Gasly, là, pareil, il manque le coche. Hein. De toute manière, ce n'était pas un week-end pour nos Français.
Bah écoute, c'est extrêmement regrettable parce qu'effectivement, les places dans les points, maintenant, ça va devenir une bonne habitude pour Alpine. Je dis bien pour Alpine parce que il faut souligner la très belle performance de Colapinto hein, à chaque fois. Et c'est peut-être ça, vous allez me dire, je cherche toujours la petite bête et ce qui peut un peu ternir le plateau et ce qu'on pense de la situation, mais c'est que Colapinto est rapide et pour le moment, en qualif en tout cas, il est un peu plus rapide que Pierre, ce qui est quand même une référence absolument incroyable. Moi, le premier, je n'aurais pas parié un copec là-dessus. Hein. Or, ça fait deux fois. Alors, en course, après, dans la sprint race, eh bien, Pierre a repris le dessus sans problème. On peut penser que là, il était très bien parti. Quand on voit que Colapinto termine 7e, même avec évidemment la pénalité qui a été infligée à Charles Leclerc, on pouvait penser qu'une nouvelle fois, Pierre était tranquillement dans les points. Alors, sur l'accident, Oui, c'était à basse vitesse, hein, vous l'avez vu, c'était une épingle à gauche. Oui. C'est d'ailleurs, oui, il n'y avait pas un risque énorme, il ne faut pas exagérer non plus, c'est spectaculaire, mais bon, ce n'est pas dangereux en tant que tel. Et puis, encore une fois, ces monoplaces sont maintenant de tels chars d'assaut que, bah, avant que le pilote se fasse mal, il en faut beaucoup plus que ça. Hein. Donc, non, ce n'était pas inquiétant, c'était spectaculaire, point. Ce qui m'a plus surpris, c'est qu'on a beaucoup travaillé aussi, et c'est très bien, pour éviter que les roues ne s'engrènent, ce qui était souvent le cas avant en Formule 1, hein, puisque évidemment les pontons latéraux n'allaient pas aussi loin à l'extérieur et le fond plat. Donc les roues pouvaient, exactement ce qui s'est produit là. Alors apparemment, Lawson d'abord s'est excusé immédiatement auprès de Pierre et auprès de l'équipe. Et puis c'est un problème technique qui a fait qu'au freinage, alors que Pierre le passait à l'extérieur, hein, vous avez vu l'image comme moi, eh bien Lawson a prolongé son freinage au-delà du raisonnable parce que le rétrogradage des vitesses ne s'est pas passé comme prévu. Donc évidemment, ça a perturbé sa zone de freinage et c'est la raison pour laquelle sa roue avant droite est venue s'immiscer entre les deux et soulever la roue arrière gauche de Pierre. Bon, c'est un petit incident, encore une fois, un peu spectaculaire, mais sans danger. Voilà.
Ouais. Colapinto quand même, les gars, hein? Voilà, je savais
que voilà, il est là. Il y en a un qui s'est couché tard hier soir à Bordeaux. C'était la fête.
Je plaisante totalement. Je voulais qu'on termine ce podcast. Bon, on a encore 2-3 sujets à voir, mais il faut qu'on revienne aussi sur la course de Charles Leclerc. Qu'on annonçait sur le podium, nous dans nos pronos, on le voyait vraiment. Je crois même que quelqu'un l'a donné vainqueur. Je sais plus qui.
Ouais, moi non plus. Mais, si, c'est moi.
Ah, c'est toi. C'est toi. Ouais. Voilà. Donc non, mais c'est vrai qu'on le voyait performant. On se doutait que la Scuderia Ferrari allait arriver avec des évolutions et que la voiture allait être bien. Et Charles a tout perdu sur le dernier tour. Il se met à la faute. Il se bagarrait pour le podium. Il termine du coup la course 6e et en plus de tout ça, il prend une pénalité de 20 secondes qui le rétrograde en 8e position. Donc là, c'est vraiment en un tour, il perd tout. On écoute Charles Leclerc et après, on revient sur cette fin de course de dingue.
Bah écoutez, j'ai tout donné. Je savais que ça allait être crucial d'avoir le mode overtake pour le dernier tour. Je savais aussi que notre deployment, malheureusement, à la sortie du RH3 n'était pas très bon comparé à la McLaren. Bien sûr, tout ça, ce n'est pas des excuses pour l'erreur que j'ai faite parce que ça, c'est... Je peux m'en prendre qu'à moi-même et j'ai eu de la chance d'ailleurs de finir la course parce que ça aurait pu très bien s'arrêter là. Mais très déçu avec la performance que j'ai. Enfin, plus que la performance, honnêtement, ça a été un très bon début de saison et une très bonne course en général. Malheureusement, l'erreur dans le dernier tour en est une grosse. Et trop optimiste sur l'accélérateur en essayant de rester le plus proche de Oscar parce que je voulais absolument reprendre ce podium. Ça a été souvent à la limite depuis le début de la saison. Ça a passé plusieurs fois, mais aujourd'hui, ça n'est pas passé. Et, faut pas que ça arrive. Mais clairement aujourd'hui mon erreur met tout le travail du team à la poubelle et sur ça il faut que je sois très dur avec moi-même et pas que ça se reproduise.
Trop gourmand Charles Leclerc les gars, hein, c'est vraiment ça, hein, cette tentative là à quelques virages de la fin, Jean-Luc, trop gourmand.
Oui, c'est ça un pilote. Hein. Moi, vous voyez, vous allez me dire, j'en remets encore une louche, mais ça fait rien, je le ferai jusqu'au bout. Ce qui me gêne dans le débrief, il commence par parler du déploiement de puissance et de tout un tas de contraintes. On est moins bon à l'accélération. Il ne parle pas de son pilotage d'abord. Il vous parle des contraintes techniques, électroniques, qui affectent sa monoplace. Mais c'est incroyable. C'est pas un discours de pilote, ça. C'est un discours de passager d'un engin motorisé. C'est pas pareil. Bon, bref, allez, on gomme. Maintenant, il nous parle après de son erreur à lui. Bah oui, malgré toutes ces contraintes qu'il vient de nous expliquer, parce que tout ça, seuls les pilotes sont capables d'en juger. Et c'est ça qui est très gênant aujourd'hui, c'est que pour émettre un jugement, et je reviens sur ce qu'on évoquait pour Isaac tout à l'heure, peut-être a-t-il lui aussi un loup effroyable dans sa monoplace, dont il n'est absolument pas responsable, dont il est victime, et qui hypothèque totalement son talent, qui l'empêche de développer son talent. Bah avec Charles, ça a été pareil. Il tenait une place sur le podium. Ma foi, il a fait un Grand Prix qui était tout à fait correct avec le matériel dont il dispose, qui est donc légèrement inférieur à celui des McLaren et même à celui de la Mercedes, à mon avis. Mais bon, ça progresse. Et puis, bah voilà, là, il fait une erreur. Mais pourquoi cette erreur? Parce qu'encore une fois, il essaie de compenser les faiblesses électroniques de développement électrique. Enfin, pour moi, c'est une hérésie, c'est une aberration. J'ai pas de mots assez forts. C'est en aucun cas du pilotage. Voilà.
Ouais, ça c'est clair. Louis, malgré tout, en en prenant en compte tout ça, bien évidemment qu'il y a ce déploiement d'énergie qu'il faut gérer. Quand on est un pilote de la trempe de Charles Leclerc, alors après, s'il prend ses risques et qu'il termine sur le podium, on est les premiers à crier au génie. On est tous d'accord. Malgré tout, bah, y a des fois, il faut savoir se contenter de gros points. Et là, il perd très gros. Il perd très, très gros.
Là, hyper gros, surtout avec le moment auquel ça arrive. Tu te dis, ah bah non, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais ouais, c'est compliqué. Après, je pense aussi que Charles, il a une voiture, on va dire, très compétitive, mais un ton en dessous de la première, de la meilleure. Et donc... on le connaît, il est entier, il va à fond à chaque fois, et donc sa Ferrari, il va l'emmener au bout pour essayer d'être sur la meilleure place possible. Et là, ça ne l'a pas fait, et ça coûte une fortune, parce que depuis le début de saison, il est un peu le caillou dans la chaussure de Mercedes et de McLaren. Enfin bref, c'est toujours lui qui est là. C'est-à-dire que Hamilton est dans le coin, mais plutôt derrière quand même. Et celui qui vient toujours se placer, s'intercaler, arracher une pole, enfin bref, vraiment, il a l'écrou cette année, on le sent, c'est Charles Leclerc. Et je pense, malheureusement, c'est cette espèce de motivation totale qu'il a en ce moment qui l'amène peut-être à faire un peu trop à un moment où la voiture n'avait plus de quoi lui permettre. Et ça coûte une fortune, surtout le dernier tour, j'étais mort de rire parce que si vous voyez son dernier tour en caméra embarquée, on dirait tu joues à Formula 1, ouais.
Mario Kart,
et puis tu rush quit, tu sais, t'as raté ta course en ligne, t'as le seum et du coup tu prends plus un virage. C'était assez marrant. Bon, ça lui coûte une pénalité derrière, donc c'est vraiment un très mauvais week-end. Alors que le week-end avait tout pour être encore une fois le meilleur week-end possible quand tu es dans une Ferrari aujourd'hui.
Devant Lewis Hamilton.
Et devant Lewis Hamilton, devant des pilotes qui ont une voiture qui est peut-être aujourd'hui un peu meilleure et pourtant il était devant eux. Donc c'est très dommage. Maintenant, il est peut-être temps de mettre son chien aussi sur les chaussures de pilotage.
C'est vrai que c'est peut-être ça la clé de la réussite. T'as raison, mon loulou. Heureusement que t'es là, toi. Hein,
moi, il m'appelle, je les trouve les dixièmes. Hein.
Allez, on termine ce podcast. Séraphin, tu voulais parler un petit peu de Williams. Parce que c'est vrai que Williams a marqué des points ce week-end, les premiers de la saison.
Ah bah oui, ça fait plaisir.
Sainz avait déjà pris des points. Oui, hein,
lors de la deuxième course, il me semble que c'était en Chine. Et oui, je trouve que pour Williams, donc on a Carlos Sainz qui partait 13e et Albon 15e. On sait que voilà, la voiture qui a perdu ce week-end, 12 kilos. On est arrivé avec Miami, 12 kilos de perdu, ce qui est énorme en Formule 1. Et on l'a vu, la Williams, elle s'est positionnée juste derrière, je trouve, le rythme des deux Alpines. Hein, elles étaient derrière. Mais c'était la meilleure des autres dans ce dernier fond de peloton. Et donc, Carlos Sainz qui termine 9e et Alex Albon 10e. Ils ont su en fait un peu tirer profit déjà du grabuge qu'il y avait au premier tour, et ensuite le rythme a été bon. Et quand on sait tout ce qu'il y avait comme attente pour Williams, et on était évidemment très déçus lors début de saison, et ben je trouve ça très encourageant de voir les pilotes pouvoir avoir un bon rythme en course et pas de se retrouver presque au niveau d'Aston Martin et de Cadillac, hein, parce que c'était, entre guillemets, c'était presque le cas sur les premiers Grands Prix, ils étaient quand même loin derrière. Là, ils ont eu un bon rythme, et donc c'est bien de voir que les deux voitures rentrent dans les points. Et on a dit chez Williams qu'à chaque Grand Prix, on allait, en tout cas quand on va amener des évolutions, permettre de réduire encore le poids de la voiture. Donc il faut aller chercher encore ces kilos supplémentaires, parce que c'est des dixièmes qui sont, et c'est hyper important pour aller mieux se qualifier, surtout au Grand Prix.
Et voilà, ouais, on a perdu 12 kilos là, hein. C'est absolument énorme, c'est immense, apparemment. Ouais. Et il en reste encore une dizaine à perdre, et après ils vont être au poids. Et quand on sait qu'une dizaine de kilos, c'est 4-5 dixièmes au tour en moyenne, hein. Donc c'est absolument énorme. Et puis évidemment, ça flingue les pneus, etc. Non, là c'est du très bon travail qu'ils font, du travail de fond, j'allais dire. On peut que s'en réjouir, parce qu'on aime l'écurie, on aime son patron, on aime les pilotes, donc on est content.
Ouais, puis une fois que les choses vont être remises en ordre du côté de chez Williams, ils ont le meilleur bloc moteur, ils ont... Là où on les a vus ce week-end, c'est un peu là où finalement on les attendait. Enfin, derrière les Alpines, ça me paraît cohérent. Mmh. Devant, derrière, ils ont le même moteur. Voilà, exactement. Avec, normalement, Alpine, Williams, Haas devrait être une espèce de petit championnat. Voilà. Quoi. Donc,
c'est ça, c'est le ventre dur, le ventre mou, le ventre dur.
tiens, en parlant de ventre mou, je parle de moi parce que la condition physique est précaire.
Ouais, non, mon Nico, tu te fais du mal.
Ah si, faut le dire, les gars. Faut le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Prochain Grand Prix, c'est dans 3 semaines. Hein. Grand Prix du Canada à Montréal. Mais vous restez connectés, vous activez les petites notifications parce que le paddock RMC, on va vous offrir du contenu Formule 1 toutes les semaines. Vous le savez, vous en avez pris l'habitude depuis le début de la saison. Donc, j'aurai bien un podcast qui va tomber dès lundi prochain. Merci beaucoup les copains. Il était pas mal ce Grand Prix de Miami au final. Hein.
Oui, mieux.
À part la sprint, mais bien sûr mieux. Ouais. Et Nico, j'ajoute.
Non, mais ça a été mouvementé. Bah, et puis alors au championnat du monde des têtes à queue là, on peut dire qu'il y a débat entre Verstappen et Leclerc. Je sais pas si on en aura d'autres, mais là, on pourra se les passer
c'est
en boucle, hein, ceux-là.
Oui, c'est enfin.
Et ce week-end, on rappelle Grand Prix de France historique au Castellet.
Bien sûr.
On sera avec Alexandre Caldi. Donc suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux RMC Sport.
L'équipe du paddock sort du studio, les amis. C'est une première.
On va aller écouter les V10, les V12, voitures d'exception.
J'allais te dire, Séraphin, tu vas avoir les poils là, tu vas nous revenir avec des très beaux lots dans la voix.
On a hâte de voir son petit contenu avec grand plaisir.
RMC qui est partenaire du Grand Prix de France historique, si vous cherchez des places, vous allez sur le site hein, grandprixdefrancehistorique.com pour tous les détails billetterie. Salut les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon Grand Prix de France historique, Séraphin, et on se retrouve très vite. Ciao.
Le paddock RMC.